Je voudrais citer une décision tout à fait courageuse du tribunal de grande instance de Paris du 23 février 1999 qui s'est courageusement positionnée dans le sens de la prééminence de la Convention des droits de l'homme et qui a privilégié le droit à la liberté d'expression contre le droit de l'auteur d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son œuvre dans un contexte de reproduction et de diffusion fugace d'une œuvre du peintre Utrillo qui était utilisée dans un reportage télévisé, donc dans une émission informative. Et là, le tribunal a clairement donné donc la prééminence à cette Convention européenne des droits de l'homme. Et je crois que c'est très courageux, surtout quand on est en France, dans la patrie du droit d'auteur. Voilà, donc je voulais...
Oui. Si je peux juste rajouter un mot, il y a également de la jurisprudence similaire aux Pays-Bas, où aussi c'est la Hoge Raad qui a estimé que on pouvait déduire de la liberté d'expression des exceptions autres que celles qui se trouvent dans la loi sur le droit d'auteur. Mais la décision française est vraiment étonnante parce qu'en général, les juristes français de droit d'auteur estiment qu'il n'y a que les exceptions qui se trouvent dans la loi sur le droit d'auteur qui existent et aucune autre, qu'elle soit justifiée par quelque considération que ce soit.
C'est clair qu'il y a deux logiques ce soir. Néanmoins, c'est aussi très intéressant de voir qu'ils se touchent aussi de temps en temps. Hein, dans les deux racontes que j'ai entendues, il y a des choses qui sont très proches. Néanmoins, j'ai quelques commentaires. Ce sont appelés un privilège, c'est un monopole privé. Et elle a appelé sur l'originalité. Je veux revenir sur le concept de l'originalité. Dans beaucoup de cultures dans le monde, ce n'est pas possible de parler sur un auteur. Aussi, si on dit ce n'est pas juste que le producteur ou une autre personne a le droit d'auteur. Aussi, si on se concentre sur l'auteur, quelqu'un qui a créé, c'est difficile. Par exemple, en Afrique, une œuvre, ça existe pas seulement une mélodie, c'est le rythme. Il y a plusieurs personnes, plusieurs des instances qui ensemble font l'œuvre. Et en plus, on peut dire, l'auteur, c'est aussi le public. Il y a une œuvre de Rosemary Comp, une Canadienne, une universitaire de droit d'auteur, mais aussi anthropologue. Elle dit il y a un grand nombre de personnes ensemble qui font l'œuvre. C'est la personne qui fait la lumière, qui fait la coiffure. Et elle cite Marilyn Monroe qui dit « Si je suis une star, c'est par le public. » Une œuvre existe seulement par la réaction du public. Ça veut dire aussi, le concept d'originalité, c'est pas seulement un concept romantique, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a plusieurs auteurs, c'est le public, ce sont tous les mélanges de personnages qui fait l'œuvre. Par exemple, une peinture, hein, c'est le galeriste qui le montre, qui fait l'ambiance dans laquelle l'œuvre peut exister et commence de recevoir une signification. Une chose plus pratique, on a parlé sur le producteur. À quelle manière rémunérer des producteurs qui travaillent dans un gel normal. Dans mon système, dans ma manière de penser, naturellement, si le marché c'est normal de nouveau, parce que le système de droit d'auteur n'existe plus, ça veut dire que par définition aussi les personnes qui organisent pour l'auteur, pour l'artiste, va gagner aussi de l'argent. Naturellement, parce que si un artiste travaille seul, il ou elle va gagner de l'argent, hein, parce qu'on peut vendre, hein, on peut avoir des expositions, des choses comme ça. S'il y a un organisateur, un manager, un producteur, hein, dans ce petit EGL, et ou un groupe de théâtre, c'est naturellement tout le groupe qui va gagner de l'argent. Et c'est le même, naturellement, avec ma deuxième manière de rémunération, avec les impôts, les taxes et le fonds. Et on peut, s'il y a un projet artistique, c'est tout le projet qui va gagner de l'argent pour des créations futures. C'est implicite, naturellement, aussi l'organisateur. Il y a un problème aussi dans ma système, mais aussi dans les autres systèmes. Suzanne appelait sur le négocier, qu'est-ce que c'est la valeur d'une œuvre? Quelle quantité d'utilisation sont là? À quelle manière on peut le mesurer? C'est très difficile. C'est à peu près impossible. Et je reconnais dans mon système, moi je dis, on paye pour une fois. Et il faut trouver, est-ce qu'il y a des différences? Si une œuvre est utilisée beaucoup de fois, est-ce qu'on va la payer plus? Mais c'est le même problème que dans le système qui existe maintenant, parce que là, c'est aussi négocier sur combien, qu'est-ce que c'est la valeur de l'œuvre. J'ai une remarque sur qu'est-ce que tu as dit. On voit que dans l'Internet, on a dit par la réglementation que le droit d'auteur, ça implique aussi dans l'Internet. C'est bien ou non? Il y a quelques semaines dans la France, le cours a dit quelque chose dans la situation de choses qui sont racistes. Il y a 3 associations antiracistes dans la France qui ont demandé à la cour d'interdire à Yahoo que Yahoo évite toutes les choses qui sont racistes dans son portail. Et le cours a dit maintenant, je ne sais pas si c'est possible techniquement, et a demandé à 3 experts de dire si c'est possible techniquement ou non. Moi, je pense c'est très étrange. Dans le train des droits d'auteur, on dit il faut appliquer la loi. Et dans le train du racisme, on dit on va voir si c'est possible techniquement. Et je sais, le 6 novembre, hein, c'est les 3 personnes sages doivent faire leur consultation à le 6 novembre. Ils disent naturellement, techniquement, ce n'est pas possible pour Yahoo d'interdire, d'éviter que toutes les expressions racistes n'existent plus dans le portail de Yahoo. Ça veut dire, hein, que dans cette situation, on a 2 réalités. Une réalité dans la législation normale s'applique dans la vie matérielle que nous avons maintenant. Il y a une autre réalité dans laquelle toutes nos législations, exceptement le droit d'auteur, hein, le copyright, mais tous les autres règlements n'existent plus. C'est étrange, c'est une contradiction que je ne comprends pas et que je ne fais pas comprendre.
Mais je crois que l'affaire Yahoo n'est pas une contradiction. Parce qu'en fait, le problème dans l'affaire Yahoo, c'est que le droit français interdit la vente d'objets révisionnistes, donc d'objets négationnistes ou d'objets néo-nazis, ce qui était le cas dans le site de vente aux enchères qui est opéré par Yahoo. Par contre, le droit américain n'empêche pas ce genre de vente d'objets nazis. Donc le juge français s'est trouvé face à un problème d'application de la loi française à un site qui opérait aux États-Unis. Donc le juge a dit que le site américain se trouvait en violation de la loi française. Donc il a dit clairement que la loi relative aux écrits racistes, révisionnistes et à la vente d'objets nazis s'appliquait sur Internet, mais qu'il ne pouvait exiger l'application de cette loi dans d'autres pays que la France. Et donc, il a demandé si techniquement, Yahoo États-Unis pouvait bloquer l'accès de son site uniquement à des utilisateurs français. Et il a essayé de trouver une astuce pour que techniquement, l'effectivité de sa décision soit respectée. Mais c'est tout à fait différent de dire que la loi, en fait, ne s'applique pas. Le juge a dit, oui, la loi s'applique. C'est justement ce qui a fait grincer beaucoup de dents, où tout le monde a dit, oui, mais on va pas commencer à appliquer le droit français à quelque chose qui se passe aux États-Unis, parce que qu'est-ce que c'est que ces Français avec leurs envies d'appliquer leurs droits partout. C'est comme si alors on appliquait le droit afghan à tous les sites qui montre des femmes un peu nues sur Internet, ça devient vraiment n'importe quoi. Je crois que le juge, fondamentalement, il a dit, en tout cas, les objets racistes, les objets néo-nazis peuvent être commandés en France. Il y a donc offre de vente de ces objets sur le territoire français. La loi française s'applique maintenant pour que mon jugement soit effectif. On va voir techniquement ce qui est possible. Je crois que c'est deux étapes
différentes. Non, c'est pas différent. Parce que Yahoo a des opérations, a des business dans la France. Et moi, je pense, le juge doit dire, il faut transformer tout ce système d'Internet ainsi que la législation, le mal qui existe dans notre société, s'applique dans l'Internet. Et maintenant, on va dire, oui, c'est transfrontière, ce n'est pas clair de quel type de législation s'applique. On ne peut pas demander qu'une chose d'un autre pays s'applique dans ce pays. Moi, je pense d'avoir deux domaines, la vie réelle et une vie virtuelle, dans laquelle c'est de moins en moins possible d'appliquer la législation normale que nous avons. Ça ne peut pas continuer. Et moi, je pense que le juge doit dire, c'est à vous de transformer tout le système que nous pouvons contrôler les choses qui se passent là. Si ça passe aux États-Unis ou non, Yahoo est une entreprise qui a le business, le commerce ici dans la France. C'est à vous de régler à quelle manière que vous voulez régler cette situation.
Non, mais je comprends très bien ce que vous aviez dit, et vous ne pourriez pas me taxer d'être révisionniste en l'absence de valeurs locaux, mais malheureusement, ce que dit Séverine est tout à fait correct d'un point de vue juridique, parce que ce que vous dites se passe tout à fait dans le monde réel. Quand on a un contrat de vente international, il y a des règles de droit international qui s'appliquent, et même si le vendeur ou l'acheteur ont dit que ce soit ces clauses-là qui s'appliquent, que ce soit cette juridiction-là qui soit compétente, ça ne dépendra pas de lui, on est dans un cadre international, et donc il faut respecter ce cadre international. Que ça plaise ou non, si on est parfaitement démocrate, il faut être logique jusqu'au bout. Mais donc, je pense effectivement...
Je pense effectivement que le juge a rendu peut-être une décision qui peut... choqué sur le plan des principes, mais d'un point de vue juridique, il a essayé d'être tout à fait correct. C'est une question, effectivement, d'effectivité. Et je n'ai certainement pas de parti pris révisionniste, comme vous en doutez.
La première, c'est c'était assez impressionnant comment Séverine, enfin comment vous trois, vous avez démontré ce qui allait nous attendre dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on allait verrouiller toutes les portes d'accès, soit aux images qu'on veut voir ou aux images qu'on veut créer à partir d'autres images et ainsi de suite. Alors la question est, pourquoi, à votre avis, les artistes se sont si peu manifestés ? Et aussi le public, parce que ce que Séverine a expliqué, c'est que pour voir, on devra payer, donner des codes, et Dieu sait quoi encore, pour avoir accès à une culture qui est... Là, c'est mon autre question du domaine public. Est-ce que Internet est un espace public? Parce qu'on est tenté de penser que le musée l'est. Moi, justement, le fait qu'on doive payer pour entrer me prouve que ça ne l'est pas. Je veux dire, il y a vraiment une sélection qui se fait dès le premier abord. Donc voilà, c'est un peu pourquoi le public est dans son sens à la fois domaine public, le public... qui voit, et les artistes aussi, se manifestent aussi peu dans un tel débat que nous, on essaye justement de mener, parce qu'on se rend bien compte qu'à un moment, on va se retrouver en prison.
Mais, Enfin, tout d'abord, par rapport à ta question, en effet, on va devoir monnayer pour avoir accès à toute une série de choses. Il y a un livre de Jeremy Rifkin qui est sorti juste maintenant en français. C'est un livre qui était déjà sorti aux États-Unis il y a quelques mois et qui parle de l'âge de l'accès, où lui explique qu'on est en train de virer vers une société où on ne parlera plus en termes de marché et de propriété, mais en termes de réseau et d'accès. C'est-à-dire qu'on va fragmenter la société en toute une série de réseaux, de communautés virtuelles, et pour avoir accès à nos propres expériences culturelles, l'accès à nos propres expériences culturelles devient un échange économique. Monnayé, pas monnayé, vous donnez vos données personnelles, vous donnez de l'argent, enfin ça peut être monnayé par toute une série de manières. Et il explique très bien comment on arrive vraiment à une société assez effrayante où toutes nos expériences de vie, toutes nos expériences d'activisme, de culture vont être régies par cette logique de l'accès. Pourquoi est-ce que les auteurs ne se manifestent pas plus? Pourquoi les utilisateurs ne se manifestent pas plus? Ben d'abord parce que faire du lobby, ça coûte très cher. Ça demande une certaine technique, c'est très difficile à faire, il faut connaître les bonnes personnes, il faut passer sa vie pendue au téléphone avec une ligne directe sur les bureaux de la Commission européenne, si on veut faire du lobby à la Commission européenne, mais faire du lobby c'est la Commission européenne, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Organisation mondiale du commerce, enfin il y a toute une série, l'OCDE, enfin il y a toute une série d'organismes internationaux qui sont en train de prendre des décisions qui vont nous concerner. Donc ça coûte très cher, ça demande de payer des avions, de payer des hôtels, d'être là à des milliers de réunions. Il y a des exemples, je veux dire, lorsque vous avez le siège ici à Bruxelles de l'IFPI, donc de l'industrie du disque, l'industrie internationale du disque, je crois qu'ils ont 5-10 personnes qui ne s'occupent que de ça, que de faire du lobby auprès de la Commission européenne. Donc vous voyez combien c'est important. Moi, je travaille beaucoup avec des gens de la Commission européenne et quelqu'un m'a dit, pour qu'un texte prenne telle ou telle orientation, il suffit qu'un commissaire européen ait été convaincu par 2 personnes. Je veux dire, c'est pas difficile. Il suffit qu'un directeur d'une direction générale qui soit très importante ait été convaincu par 1 ou 2 personnes. Donc vous comprenez que les utilisateurs, comme vous et moi, les auteurs, n'ont pas les armes pour jouer dans ce jeu-là. En plus, les auteurs, je crois aussi fondamentalement, c'est que on a bien vu ici, Joost l'a dit, Suzanne l'a dit, l'auteur se sent quand même un petit peu perdu par rapport au droit d'auteur. Le nombre d'auteurs qu'on connaît qui disent « mais le droit d'auteur, ça me pose plus de problèmes que ça m'apporte davantage, en tout cas ça ne me met pas un franc dans ma gamelle à la fin du mois », comment voulez-vous que des auteurs puissent tout d'un coup se dire « on va se battre pour défendre un droit d'auteur qui nous plaît ». Le droit d'auteur déjà ne leur plaît pas. Et là, je trouve qu'on est en train d'avoir une fracture énorme. Je veux dire, je crois qu'ici, on se bat tous pour un droit d'auteur, donc c'est pour ça que moi, je suis vraiment pour le droit d'auteur et je continuerai à l'être, mais pour un droit d'auteur, pour les artistes, pour les créateurs, et pour que eux alors puissent dire eh ben, le droit d'auteur il est là en tout cas pour nous protéger, pour nous accorder certains avantages, certaines rémunérations, mais il est là aussi pour favoriser un progrès scientifique, un progrès artistique, un échange du savoir, un échange culturel, et on veut se battre pour ce droit d'auteur là mais je crois que ce sera très difficile quoi, de toute façon. Possible de quoi de...
Si l'internet est la fin de copyright, de droit d'auteur, qu'est-ce que nous faisons pour le créateur, pour l'auteur? C'est la première question de notre temps. Mais je pense que la loi et la technologie, ils ne marchent pas sur Dion. 5 ans peut-être. C'est une différente question pour nous.
J'ai rien à répondre à ça. Je crois qu'en effet, c'est une question ouverte.
On a beaucoup parlé de mondialisation de l'économie. On a beaucoup parlé aussi de concentration des médias tout à l'heure. Et je venais de penser à une conséquence du droit d'auteur actuellement. Bon, on consomme du droit d'auteur, on consomme des œuvres, on consomme des droits, en fait, qui viennent d'où ? Quelqu'un qui a dit « mais la plupart des droits retournent à Hollywood ». Est-ce que vous trouvez ça normal ? Bon, on a des habitudes de consommation, peut-être qu'on peut réfléchir là-dessus. Mais en plus, non seulement ces droits qui sont générés ici, c'est vous, c'est moi qui les payons, repartent ailleurs, ça c'est une chose, donc repartent vers les titulaires de droits. Mais au niveau de la taxation internationale de ces droits, il faut savoir que dans le système de taxation internationale, les droits d'auteur sont taxés par l'état de résidence du titulaire. Donc, les États qui inondent le monde de leurs œuvres, de leurs droits, en fait, récupèrent, c'est une espèce de pompe à fric, si vous voulez, le droit d'auteur, qui retourne au titulaire et qui enrichit les États d'origine de ces droits aussi, parce que c'est le seul État, enfin c'est la seule compétence qui peut taxer les droits d'auteur. Il y a eu dans les années 70 une convention internationale préventive de la double imposition qui essayait, si vous voulez, d'amener des solutions praticables pour les États du tiers-monde et donc d'essayer de trouver des moyens termes à cette solution qui ne fait qu'enrichir les États du Nord qui exportent beaucoup de contenu. Hein. C'est les œuvres, mais ça va être les banques de données, tout ce qui est information, Séverine l'a dit, tout ce qui est contenu, ça va suivre les mêmes règles. Et donc, tous ces États qui fabriquent, qui produisent, qui diffusent du contenu vont se retrouver enrichis aussi, donc les pouvoirs publics, l'État, du fait même qu'ils ont le seul pouvoir de taxation. Les États du tiers-monde, il y a déjà 30 ans, ont essayé de négocier avec les États de l'Ouest, les États développés, une espèce de partage du pouvoir de taxation. Ils n'y sont jamais arrivés. Donc là aussi, c'est un deuxième aspect qui est en plus en aval du droit d'auteur et de l'exploitation, mais qu'il faut aussi prendre en compte dans cette matière. Voilà.
Je crois qu'il y a encore une autre dimension dont on n'a pas encore parlé, c'est la pratique culturelle en Europe, je crois la plupart de l'Europe, que la création culturelle est subventionnée. Et je me demande justement au niveau européen, dont on parle de la pouvoir de tous ces lobbyistes qui sont sur le marché et avec tout le capitalisme derrière eux, où est-ce qu'on retrouve la voix de la pouvoir public, là, dans ces créneaux? Parce qu'on parle de tous ces systèmes de subventions à la création artistique en direct pour les auteurs ou pour des associations qui existent ici, je crois, partout en Europe, qui est nulle part en États-Unis. Je crois que là aussi, c'est une dimension qui joue dans la différence entre le copyright et le droit d'auteur. Et là, je me pose quand même des questions. Que tout ce système démocratique des États, de l'Union européenne ne tienne pas du tout compte de cette notion. Ça existe quand même. Parce que moi, je n'y connais rien à ce niveau-là. Mais je constate ici qu'on est très faible à ce niveau-là.
Je pense que de toute façon, les États nationaux, dans le domaine de la culture, ont encore un pouvoir de subventionnement direct tant qu'il subsiste, parce que, bon, là aussi, il faut tenir compte de l'orientation de la Commission européenne qui a toujours été tournée vers la suppression des pratiques anticoncurrentielles. Et tous les subsides d'État, par exemple, sont considérés comme des aides qui ne sont pas légitimes au regard du fonctionnement du marché intérieur. La Commission vient de donner une définition de ce qui est un bien soumis aux lois de la concurrence. C'est un bien interchangeable. La Commission européenne, à travers cette définition, donc, devrait exclure la culture de tout ce qui est réglementation de la concurrence et tout ce qui en découle. Ça n'est pas encore évident hein, quand on parle des quotas d'œuvres européennes qui doivent être garantis par la radiodiffusion ici en Europe. Bon, c'est toujours des batailles. C'est comme si la culture n'avait pas encore une voix au chapitre, mais la culture vient d'être seulement insérée dans le traité il y a quelques années. Avant, c'était uniquement des préoccupations économiques. En ce qui concerne le pouvoir des États nationaux, ils sont de plus en plus réduits. Il faut bien s'en rendre compte. Ici, l'État belge, qu'est-ce qu'il a encore comme pouvoir? Bon, tout ça a été délégué aux communautés, aux régions. Qu'est-ce qu'il a encore comme pouvoir? Le pouvoir de battre monnaie s'est terminé à partir de 2002, puisqu'on est dans le système euro. Au point de vue financier, on a encore, point de vue fiscal, une petite compétence fédérale, mais il y a tout le système de la TVA, il y a tout le système de la régionalisation de la fiscalité, etc. De plus en plus, les États se désinvestissent de leurs compétences, ça c'est vrai, au profit d'entités beaucoup plus régionales, communautaires, c'est peut-être pas un mal, mais au niveau international, qu'est-ce qui prend le relais? C'est la Commission européenne, c'est l'Union européenne. Or, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? C'est un petit parlement, c'est une grande commission, et c'est beaucoup de lobbyistes, de l'industrie. Donc, le pouvoir, il est là, c'est tout. Il y a une déficience, comme on dit, une légère déficience.
Nee, ik ben heel gelukkig.
Une certaine efficacité dans le changement et dans l'évolution, ou bien est-ce que finalement c'est un constat un petit peu d'impuissance et d'infériorité face au lobbying?
C'est pas un constat d'impuissance, la lutte au niveau juridique, je crois qu'elle a un sens. Enfin, moi je fais partie d'une université, donc je veux dire, on est par définition des gens qui sommes neutres, enfin on essaye de pousser la logique juridique, la rigueur scientifique, et pas forcément les intérêts des uns ou des autres, même si, bon, dans toutes nos réflexions, on a évidemment, nous aussi, on a nos intérêts, ou on a en tout cas, on est en faveur de plus ou moins de certaines parties, mais et je crois qu'on a souvent des discussions avec d'autres universités européennes, où en effet, tout le monde en a marre que la Commission européenne n'écoute pas les professeurs d'université, par exemple, qui ont quand même quelque chose à dire, qui sont quand même des experts dans leur domaine, qui sont ceux qui comprennent peut-être le mieux le mécanisme avec le plus de distance, on ne les écoute pas. Moi, c'est un truc qui m'énerve à chaque fois. Là, il y a un nouveau... Donc, le texte de la proposition de directive européenne a eu... en juin, il y a eu une position commune. Donc, les États en sont mis d'accord sur un texte. On est tous arrivés à une conférence internationale quelques jours après. Tous les lobbyistes dans la salle avaient une copie des textes. Toutes les personnes académiques qui organisaient la conférence, tous les professeurs d'université n'avaient jamais vu ce texte, n'avaient pas la copie du texte. Mais tous les lobbyistes l'avaient reçu, en violation des règles de la commission, où normalement rien ne sort avant que ce soit publié. Enfin bon, lobbyiste téléphone, il reçoit le texte par fax le jour même, hein, faut pas rêver. Donc, on n'est pas pessimiste, mais en même temps, on se dit de plus en plus, mais... Où est-ce qu'on fait entendre notre voix? Où est-ce que... Et je crois que les juristes, peut-être, ont peut-être un rôle d'intermédiaire à jouer, en tout cas un rôle de remettre un peu l'église au milieu du village et de dire, bon, ben, écoutez, en tout cas, ce que vous proposez comme solution, là, est même aberrante au niveau juridique, parce que ça va aboutir à ceci, ceci, cela. Donc même si on ne prend pas forcément toujours le parti des utilisateurs en matière de droit d'auteur, je crois qu'on a quand même une voix à faire entendre, parce qu'en tant que professeur d'université, on développe aussi une certaine vision de la société. Donc on n'est pas pessimiste, hein, je veux dire, on continue quand même à se battre, et je sais qu'au sein des universités, de plus en plus de professeurs veulent faire entendre leur voix de manière peut-être plus structurée pour que cette voix finisse par se faire entendre. Voilà.
Et en plus, le droit individuel, c'est une fiction juridique. En effet, c'est pour la première fois qu'on a un bien qui n'est qu'une fiction juridique. C'est le monde virtuel. Dans l'économie, mais c'est un monde juridique, et c'est pour ça que les juristes, à mon avis, ont un devoir d'y jouer un rôle important pour la logique, pour l'équilibre dans la société, et pour la créature qu'ils ont fait eux-mêmes.
Voilà, merci à tous.